qui est donc tout entier ordonné à, dépendant de, qui est toujours seconde, sauf un seul cas où l'être en puissance est premier, dans l'ordre du devenir de l'individu. C'est un fait. C'est le seul cas. C'est très intéressant. Il y a une petite enclave, vous voyez, petite enclave dans cette espèce de primat absolu de l'être en acte sur l'être en puissance, il y a une enclave qui n'existait pas du côté de la substance. La substance est toujours première comparativement à la qualité. Tandis qu'au contraire, l'être en puissance est premier par rapport à l'être en acte dans le devenir de l'individu. Dans le devenir de l'individu. Donc, dans tout devenir individuel. Alors, prenez par rapport au monde biologique comme par rapport à l'esprit. L'intelligence est d'abord en puissance avant d'être en acte. La volonté est d'abord en puissance avant d'être en acte, dans son devenir. Et c'est très important de saisir cela, parce que par là, on saisit, au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, cette pierre d'attente du monde du devenir par rapport à l'être. Le monde du devenir a donc son rythme propre qui n'est pas celui de l'être. Il y a donc quelque chose de tout à fait particulier dans l'ordre du devenir. Et ça, je crois que c'est très très important à saisir. Venez, pour bien montrer que la philosophie, la métaphysique de l'être respecte une philosophie du devenir, qui est la philosophie de la nature, qui est la philosophie humaine aussi, d'une certaine manière. Parce que nous sommes des êtres en devenir. Donc si nous sommes des êtres en devenir, il faut donc situer ce que représente ce devenir qui est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le devenir du côté biologique, du côté physique, le corps vivant, et le devenir du côté de l'intelligence, de l'esprit. C'est aussi très important. Ça montre bien, vous voyez, que la métaphysique ne dit pas tout. La métaphysique, c'est très important, mais ça ne dit pas tout. Et je ne peux pas déduire les autres parties de la philosophie de la métaphysique. Ce que la scolastique décadente faisait trop, puisqu'elle disait qu'à partir de la connaissance spéculative, on appliquait sur la connaissance pratique. C'était une application, c'est faux. Il y a perpétuellement un échange des deux. Il faut perpétuellement revenir au devenir pour saisir l'acte. Et il faut perpétuellement regarder l'acte pour saisir le devenir. Et respecter qu'il y a deux ordres différents. Il y a un ordre ici qui est propre au devenir de l'individu. Et puis il y a ici un ordre qui est tout à fait autre, qui apparemment est contradictoire, apparemment est contradictoire. Il ne l'est pas, puisqu'ils sont à deux niveaux différents. Mais apparemment, ils sont contradictoires. L'ordre de l'être et l'ordre du devenir sont tout à fait différents. Alors ça, c'est très très important à le comprendre. Et de le justifier, vous voyez, c'est cela, c'est ici l'intérêt, c'est que la philosophie, la découverte de l'être en acte, distincte de l'être en puissance, justifie cet ordre propre de la métaphysique et justifie cet ordre propre de la physique. Et de la physique, et encore une fois, de toute la philosophie humaine. Donc, voir pour une anthropologie, vous comprenez que c'est très important. De voir que l'anthropologie aura toujours deux versants. Je ne peux pas faire une anthropologie purement verticale. Parce qu'il y a dans l'homme toujours l'horizontal. Et on doit en tenir compte. Même s'il y a un primat du vertical par rapport à l'horizontal, je ne peux pas opter. C'est une fausse position d'opter le vertical contre l'horizontal, l'horizontal contre le vertical. Ça ne signifie rien. Il faut comprendre qu'il y a un ordre particulier de la fin et qu'il y a un ordre particulier du devenir. et que le devenir me fait comprendre mon conditionnement, et que le point de vue de la fin me fait comprendre l'ordre de perfection qui est en moi. Et donc, toute anthropologie véritable et réaliste aura toujours deux dimensions. Une dimension qui me montre le point de vue de la finalité, une dimension qui me montre le point de vue du conditionnement. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez bien combien c'est important de saisir au point de vue métaphysique ce qui nous est montré là. Donc, comme la distinction de l'être en acte et l'être en puissance est si difficile à saisir, il faut tout de suite regarder les modalités. Première modalité, l'essai, l'essence. L'essence à l'intérieur de la substance composée. Parce que c'est la seule que je saisis et que j'expérimente. Le pos de la substance. Deuxième modalité, le point de vue du bien. Face à la petite spirituelle, la volonté. Troisième modalité, le vrai. Face à l'appétit spirituel de l'intelligence, le jugement. Quatrième modalité, les opérations vitales. Cinquième modalité, le mouvement. Les opérations vitales face aux puissances vitales, à la dynamis, et le mouvement face au corps mobile. Je crois que nous avons là les cinq arêtes, les cinq sommets. Il y a cinq sommets. C'est un terrain volcanique. Alors vous avez les cinq sommets de la philosophie. Dans le regard de l'être en acte. Cherchez bien, je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Alors, c'est là l'objection. N'y a-t-il pas un troisième prime qui a été oublié? Alors, on serait tenté de dire, d'après ce que je vois ici, le point de vue du beau. Est-ce que je peux mettre là le beau? Est-ce que je peux mettre là l'idéal? Vous voyez, la réminiscence hein, des transcendentaux, d'une certaine manière. Mais si vous êtes attentif, ce n'est pas les transcendentaux du tout, c'est autre chose. Il ne faut pas mêler, il ne faut pas mêler. Il faut bien voir qu'ici, je suis dans la perspective de l'être en acte et de l'être en puissance, et j'essaie de voir ces différents modes de l'être en acte et d'être en puissance. C'est une recherche, hein, ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de voir. Je ne suis pas du tout en opposition de dire, mais oui, il y a un 3 prime, ou tout simplement dégrader les autres, mettre 4, 5, 6, c'est très bien. Mais il s'agit de le faire avec beaucoup d'attention, et avec beaucoup de discernement, et se demander si c'est vrai, ou si c'est pas, si c'est simplement parce qu'on a une nostalgie du beau. On est dans l'ordre de Camus. Alors on est pris par Camus, on est pris par Maritain, alors on a nostalgie du beau. Et du beau transcendantal, ou alors on va dire ça. Alors, je lis l'objection, hein, parce que nous avions déjà vu. Si l'idéa ne peut être une modalité de l'acte, j'avais dit, posons l'idéa. Et j'avais dit tout de suite, on ne peut pas poser l'idéa comme une modalité de l'acte, parce que l'idéa est de l'ordre de l'intentionnalité. Et si l'idéa est de l'ordre de l'intentionnalité, il est nécessairement quelque chose de second. Il n'est pas un sommet. Alors, si l'idéa ne peut être une modalité de l'acte à cause du métaxu de l'intentionnalité, qu'est-ce qui empêche que le beau, comme objet formel de contemplation, soit un transcendantal convertible avec l'être, le vrai et le bien, et par là soit aussi acte de l'esprit, comme esprit face au beau, comme esprit face au beau, de l'esprit face à l'être. Oui, l'analogie entre les deux. Dire que, donc on ne mettrait pas l'idéa, on mettrait le beau ici, qui serait une modalité de l'acte. Le problème se pose, je comprends très très bien. Alors c'est toute la question de savoir ce que c'est que le beau. Je l'ai beaucoup travaillé, le beau, si j'ose dire. parce que c'est une des questions qui m'ont toujours beaucoup, beaucoup tracassé face à Maritain, et pas seulement à Maritain, parce que avant Maritain, il y avait notre cher père Garrigou Lagrange, qui avait dit que le beau est synthèse des transcendentaux. Ce n'est pas une invention de Maritain, c'est une invention d'un théologien, comme toujours, n'est-ce pas ? Les théologiens sont à l'origine. Eh bien, c'est le père Garrigou Lagrange qui l'avait dit avant Maritain. Et Maritain l'a repris. Alors, il l'a exploité, il l'a remis avec. Mais c'est le père Garrigou Lagrange qui l'avait dit. Il n'y a pas que le père Garrigou Lagrange qui a dit ça, il y a tout un courant à Louvain, plus maintenant. Mais il y a 50 ans, il y avait tout un courant à Louvain qui mettait le beau comme transcendantal. Donc, c'est une question auquel il faut s'arrêter. Est-ce que le beau est immédiatement rattaché à l'être? Et toute la question est là. Si le beau n'est pas immédiatement rattaché à l'être, à la place du métaxu de l'intentionnalité, vous aurez le point de vue de la forme. Voyez ? Alors, c'est ce qui me semble, personnellement. Si j'essaie d'étudier ce que c'est que le beau, je crois que le beau, c'est la splendeur de la forme. Et je ne dis pas de l'être. C'est la splendeur de la forme. C'est pour ça que l'homme peut créer une réalité belle. Il peut réaliser une expression belle. Parce que c'est au niveau de la forme. Si c'était au niveau de l'être, il ne pourrait pas. L'homme ne touche pas l'être. Par son travail et son labeur, et par son art. Il ne touche pas l'être, il touche la forme. Il change la figure de notre univers, mais il ne change pas l'être de notre univers. C'est toute la question, ça. C'est ça qui est très important. Parce que le beau, où est-il en premier lieu? C'est ça qui est important de savoir. Quelle première analogie du beau? Quelle première analogie du beau? Parce que, de fait, le beau se donne dans de multiples modalités. Il y a le beau de la nature, il y a le beau du visage humain, il y a la beauté du chien, on va dire le chien qui fait le beau, hein, vous voyez? Il y a la beauté du chien, il y a le point de vue de la beauté d'un acte moral, c'est magnifique, c'est beau, c'est grand. Puis j'affirme, Dieu est beau. La beauté d'une âme, c'est une belle âme. Ça veut dire, hein? Très très bien. Alors c'est quelque chose d'analogique, le beau. Ça s'attribue depuis les réalités physiques jusqu'aux réalités spirituelles. C'est très analogique, le beau. Et je crois qu'en effet, après les notions transcendantales, c'est immédiatement après le beau. Tout de suite, après les notions transcendantales. Mais ce n'est pas une notion transcendantale parce que ça ne se rattache pas directement à l'être. Et pour ça, je cherche quel est pour moi le premier analogué du beau. Et je dis que le premier analogué du beau, c'est dans l'œuvre d'art. Et même le premier analogué du beau, c'est l'idéal, qui est la mesure de l'œuvre d'art. Le beau n'est pleinement beau que lorsqu'il est dans mon intelligence. C'est pour ça qu'il me séduit tellement. Un grand artiste sait très bien que ce qu'il réalise n'est jamais parfaitement adéquat à ce qu'il a fait. Et alors il porte en lui une espèce de nostalgie particulière, et cette nostalgie particulière qui est justement le point de vue de cette idée qui est formellement belle. Mais le beau, si le beau est la splendeur de la forme, je dirais que le beau implique d'être parfaitement lui-même quand il est dans l'intelligence et dans l'idéal. C'est là où le premier analogué est présent. Tous les autres sont seconds. N'allez pas me dire que c'est Dieu, parce que ça ne signifie rien. Parce que Dieu, je n'ai pas de connaissance immédiate de Dieu. Donc au point de vue métaphysique, vous comprenez bien, au point de vue théologique, au point de vue de la foi, serait différent. Mais pas au point de vue métaphysique. Au point de vue métaphysique, j'attribue la beauté à Dieu parce que la beauté en soi n'implique aucune imperfection. Elle n'implique aucune imperfection. Mais elle n'implique aucune imperfection au niveau de la détermination de la forme, pas au niveau de l'être. C'est en ce sens-là que je crois que le premier analogue du beau, ça revient à l'idéal. Alors, si ceci est exact, vous comprenez pourquoi le beau ne peut pas être une des modalités de l'acte. Alors là, ça demanderait beaucoup, beaucoup de précision, parce que c'est toute la philosophie de la notion du beau qui est en cause. Qu'est-ce que c'est que le beau ? Vous voyez ? Parce que vous ne pouvez pas immédiatement dire, ah, le beau, je le connais pas. Non, il faut d'abord connaître le beau pour lui-même. Il faut d'abord connaître le beau en lui-même. Et connaissant le beau en lui-même, je puis ensuite essayer de comprendre que représente cette notion analogique du beau et comment la notion analogique du beau n'implique pas immédiatement le point de vue de l'être, mais est reliée à la forme, splendeur de la forme, et non pas splendeur de l'être. Oui.
Le beau est premièrement dans l'intelligence.
Oui.
Mais le vrai, non ?
Non, le vrai, il est dans l'intelligence, mais dans l'intelligence par rapport à l'être. Tandis que le beau, c'est par rapport à votre inspiration. C'est vous qui êtes inspiré, c'est pas l'être. C'est ça la différence. D'où vient votre inspiration ? Est-ce qu'elle vient de l'être ? Non, elle vient de vous, avec votre imagination. Et c'est ce facteur sensible qui est lié à l'inspiration qui fait ce jaillissement de l'idéal.
L'inspiration, quand vous la prenez, c'est toujours par rapport à l'œuvre. Moi, je veux détacher le beau de l'œuvre.
Ah oui, vous êtes maritanesque. Mais alors, dites-moi ce que c'est que l'intuition poétique de Maritain. Parce que Maritain détache. Eh bien, si vous détachez l'inspiration de l'œuvre, votre inspiration, elle va très vite devenir une velléité. C'est la même chose. Vous n'allez pas mettre un beau en dehors de... Où est-ce qu'il est, votre beau ?
Pourquoi faut-il
unir
le beau avec l'inspiration ?
Parce que c'est l'artiste. Mais vous l'avez vu, le beau en dehors de l'art ?
Non.
Moi, jamais. Est-ce que vous avez vu une statue belle en dehors d'un artiste qui l'a fait ? Mais le vrai, il est dans mon intelligence, ça. C'est autre chose. Il est dans mon intelligence, elle est ordonnée à l'être. C'est tout à fait autre chose. Mon intelligence est directement tournée vers l'être. Tandis que votre inspiration n'est pas tournée vers l'être. C'est fameux, une inspiration tournée vers l'être. Ah, c'est toute la question. C'est toute la question. Où naît l'idéal ? Alors, si vous, pour vous, il y a un beau, transcendantal, esthétique qui existe avant tout, je dis, mais où est-ce qu'il est ? Alors, où vous dites, c'est Dieu ? Alors, je dis, ah bon, alors vous avez une vision de Dieu, c'est l'ontologie. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, il n'est pas dans l'être. Je ne vois pas le beau dans l'être. Je ne le vois pas. Je vois le beau dans l'inspiration. Je ne le vois pas dans l'être. Je vois la forme, je vois le vrai, je vois le monde, mais je ne le vois pas dans l'être. J'ai étudié très longuement la question. Parce que je crois que c'est... Venez, je crois que c'est très important. C'est très important parce que l'ontologisme a mis... Au fond, c'est un vieux reste de l'ontologisme. L'ontologisme a mis en pleine lumière le beau pour nous faire croire que le beau, qui est la splendeur de la forme, est identique à l'être. Et je crois que c'est l'ontologisme. La source, vous voyez, la source du primat de la beauté par rapport au transcendantaux, c'est-à-dire de faire de la notion du beau un transcendantal, ça provient d'une vision, le vieux reste de l'ontologisme. C'est très difficile, on ne peut pas traiter ça ici rapidement. Je vous dis simplement que vraiment, je serais très heureux si le beau était un transcendantal.
serais très heureux.
Mais j'ai peur qu'en faisant ça, on en fasse un idole. Et que le beau n'est pas un transcendantal. Ce qui est directement attaché à l'être, c'est ça un transcendantal. Si le beau était un transcendantal, l'homme ne pourrait pas faire une œuvre belle.
C'est très ennuyeux.
L'homme ne pourrait pas faire une œuvre belle.
Il ferait des œuvres utiles.
Il ne pourrait pas faire une œuvre qui soit uniquement dans la gratuité de la beauté. La gratuité, c'est dans la splendeur de la forme. Il ne pourrait pas réaliser, vous voyez, Dieu peut réaliser gratuitement un être, parce que lui, sa création touche l'être. C'est le propre de la création de Dieu. Et la création première de Dieu n'est pas premièrement ordonnée à la beauté. Elle est ordonnée vers le bien. Valde bonum. Il ne dit pas valde pulcro. Il dit valde bonum. C'est bon, c'est tout à fait bon. C'est la recréation qui, elle, sera ordonnée vers le point de vue du beau. La recréation des corps glorieux est en vue de la beauté. Splendeur de la forme. Parce que l'œuvre de la création sera terminée. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Dieu peut se servir d'un instrument, l'humanité sainte. Tandis qu'il ne se sert pas d'instrument quand il s'agit de la création. Tandis que dans l'œuvre de la recréation, il le peut. Alors, c'est très important, ça touche, vous voyez, toute la question de la théologie glorieuse, esthétique. Vous savez, on a une espèce de nostalgie. On a une nostalgie de faire une théologie de la gloire. Je comprends très bien qu'on a une nostalgie de faire une théologie de la gloire. Une théologie mystique n'est pas une théologie de la gloire, pour moi. Oui. Parce qu'au fond, la gloire, la résurrection des corps, elle n'est pas encore opérée sur la terre. Elle se fait, mais elle est très cachée. C'est encore les gémissements de l'Esprit Saint. Mais alors, les gémissements de l'Esprit Saint n'ont rien de glorieux. Ce sont des gémissements d'amour. Et ce sont des gémissements d'amour qui justement, ne sont pas glorieux. Et la résurrection se fera, justement, par le point de vue de la gloire. Alors ça, on touche là des problèmes très, très difficiles, mais très intéressants, parce que je crois que c'est la question de savoir si on doit mettre ou pas mettre le beau. J'ai beaucoup hésité, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, parce que c'est une chose très intéressante et importante. Alors, je ne peux pas dire plus, hein. Vous gardez vos opinions, c'est bien évident, mais je vous dis pourquoi je ne le mets pas dans comme un mode particulier de l'acte. Parce que si vous regardez bien ce que c'est que le beau, vous voyez que le beau se rattache à la forme, et pas immédiatement à la question de l'acte, de l'être. Donc, il n'est pas. Je n'explique pas le beau par le point de vue de l'acte. J'explique le beau par le point de vue de la forme. Et d'une forme parfaite, et la forme n'est parfaitement elle-même que quand elle est pensée. Tandis que l'être est parfaitement lui-même avant d'être pensé. Tandis que la forme n'est parfaitement elle-même que quand elle est pensée. Et c'est pour ça que la splendeur de la forme comme forme ne peut être que dans la pensée. C'est toute la différence entre l'être et la forme. Et c'est très vrai que la forme ne peut être parfaitement elle-même que quand elle est pensée. Ça, et c'est pour ça que toujours dans le point de vue du néoplatonisme et de l'ontologisme, la forme n'est parfaitement elle-même que dans la pensée. L'intelligence est le lieu des formes. Cette phrase d'Aristote est très très forte et elle est très intéressante. Elle n'est pas le lieu de l'être. L'être est avant l'intelligence. Tandis que la forme, vous voyez, l'intelligence est le lieu des formes. Donc, alors quand je prends cette question-là, le lieu, on l'a touché l'autre jour au séminaire, le lieu, ça touche la question de la finalité. Et donc l'intelligence finalise la forme. Elle donne à la forme sa splendeur en tant qu'elle est connue et en tant qu'elle est parfaitement connue. Alors à ce moment-là, je comprends comment l'intelligence est le lieu de la forme. Et c'est pour ça que si le beau, c'est la splendeur de la forme, le beau n'est parfaitement lui-même que dans l'idéa. Alors l'idéa demande la réalisation, c'est sûr, et demande la réalisation, mais on ne sera jamais satisfait. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui dominera. Et là, vous voyez, ça rattacherait tout le point de vue de la causalité exemplaire. Bon, je passe, hein, en laissant la recherche. C'est pas du tout, c'est une recherche que nous faisons. Dans les modalités de l'acte, y a-t-il lieu de distinguer l'énergeia de l'entelecheia ? L'actus essendi, se réalisant dans une substance, celle-ci serait-elle entelecheia, au sens où Aristote dit que l'âme est entelecheia? Que peut-on dire pour les quatre autres modalités? Oui, il y a là quelque chose de très intéressant à toucher. C'est peut-être vrai qu'il faudrait dire que les modalités de l'acte sont déjà entelecheia. Oui. Ça, ce sera étudié de très près. Et ce serait intéressant, ça ferait mieux comprendre ce que c'est que ces modalités de l'acte. Oui. Il est sûr que l'être en acte est energeia, au sens où energeia est ultime par rapport à entelecheia. Et toutes ces modalités de l'acte sont-elles entelecheia? Il est sûr que l'opération vitale l'est. Il est sûr que le mouvement l'est. Alors, est-ce que le vrai, le bien et l'essai sont-ils? Vous voyez, je dirais que le bien, c'est ce qui peut-être serait le moins entelecheia. Alors ça, c'est très très curieux. Il faudrait donc mettre le bien immédiatement avant et mettre l'essai, le vrai et ainsi de suite. Ça, c'est possible. Je laisse ça à la réflexion. Mais ce serait possible. Parce qu'il me semble que le bien ne peut pas être au sens strict entelecheia. Le bien attire. Alors ce serait intéressant parce que ça montrerait que l'être en acte et le bien sont comme deux pôles de l'être en acte. Au niveau de l'être, au niveau du bien. Puis immédiatement après, vous auriez cette modalité de l'acte qui est laissée, qui est déjà quelque chose qui est plus, je ne dis pas plus particulier, parce que ça reste très universel, mais actus essendi, pas purement acte, actus essendi. Alors, là, on pourrait peut-être dire l'entelecheia au niveau substantiel. Le vrai, l'entelecheia au niveau de l'esprit, l'entelecheia au niveau de la vie, l'entelecheia au niveau physique. C'est à rechercher, ça, et ce serait intéressant. Ce serait intéressant à voir, hein, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je le vois très très bien en prenant 4 et 5, c'est net. 3, ça me semble aussi assez net. Et alors, l'essai. Et le bien et l'être en acte seraient les deux premiers aspects où l'energeia serait parfait. Oui. Ça touche les deux. Ça touche les deux. C'est pour ça que je n'ai pas précisé exprès. Parce que ça touche les deux. Est-ce qu'on n'est pas là avant la distinction du vrai? Voyez. Alors, c'est le vrai en tant que perfection de l'intelligence, entelecheia. Le vrai en tant qu'il finalise l'intelligence, energeia. C'est les deux. Et je ne crois qu'on ne puisse pas faire la distinction. Tandis que le bien, lui, c'est net. Voyez. C'est pour ça que je mettrais... Peut-être, on devrait peut-être faire ça, tout simplement. On aurait donc cet ordre-là, l'être en acte, le point de vue du bien, le point de vue du vrai, le point de vue de l'essai. Vous voyez ? Actus essendi. Alors, l'actus essendi. Puisque saint Thomas n'a pas fait de distinction entre l'energeia et l'entelecheia. Il n'a pas fait de distinction. C'est là où il y a une petite... petite, je ne dis pas de confusion, mais un manque de distinction, puisque le latin traduit actus et deus. Et je ne crois pas qu'on puisse absolument identifier les deux. Donc, il y a quelque chose qui, en latin, ne passe pas entièrement. Alors, l'essai actus et sendi, puisque c'est actus et sendi, on comprendrait assez bien que c'est d'une certaine manière quelque chose qui est lié à la substance, bien que distincte, mais lié à la substance. Mais c'est plus l'acte dans toute sa pureté. Tandis que l'acte dans toute sa pureté, vous le trouvez au niveau du bien. Et alors, au niveau du vrai, vous auriez le petit mélange entre les deux. Et ce petit mélange continuerait. Donc vous aurez cet ordre-là. Vous pourrez mettre l'être en acte, le bien, le vrai, l'essai. Ça, je serai assez d'accord. Parce que là, nous sommes en face de l'esprit. Après, je fais appel à la substance. La substance, ce n'est pas directement l'être. Surtout la substance qui contient l'essai. Qui contient l'essence, je veux dire. La substance le pose. Donc, c'est à un niveau, si vous voulez, déjà, de telle réalité concrète. Tandis que le point de vue du bien et du vrai, c'est l'esprit dans toute sa force. Alors, on peut réfléchir là-dessus. Je serais assez d'accord. Lorsque nous saisissons l'ousia comme principe et cause de toutes les déterminations selon la forme de ce qui est, nous la saisissons comme source de l'autonomie de tel ou tel être. Par exemple, pour la personne humaine, l'âme est source de son autonomie. D'autre part, dans le livre sur l'être, tome 2, alors on en voit, vous dites que le fait d'exister, mode le plus fondamental de l'être, donne au sujet et à la substance quidité son autonomie d'être, en la séparant de tout ce qui n'est pas la réalité existante. Pourriez-vous, si possible, préciser quelle est la source, le principe et la cause de l'autonomie de tel ou tel être, et donc de la personne humaine et de son esprit, sachant que l'intelligence est mesurée par la réalité et que la volonté est mesurée par l'autre en tant qu'il est son bien. Oui, je vois un peu. L'ousia est principe et cause de toutes les déterminations selon la forme de ce qui est. Ça, c'est sûr. Source première d'autonomie, dans l'ordre de la détermination. Et l'acte est l'achèvement de cette autonomie. Dans l'ordre de l'existence. Tout simplement. Il n'y a pas de contradiction, c'est toujours la même chose, c'est que notre intelligence n'a pas l'intuition de l'être. Si l'intelligence n'a pas l'intuition de l'être, je saisis l'être sous l'aspect de la détermination. Je saisis l'être sous l'aspect de son acte. Et saisissant l'être sous l'aspect de la détermination, je saisis la source de toutes les déterminations. Et saisissant l'être du côté de l'acte, je saisis l'être dans son indépendance. Oui, l'autarcie. Alors on devrait dire l'autonomie et l'autarcie. À ce moment-là, tout le monde serait content. L'acte donne l'autarcie. Oui, l'autarcie est en grec, a quelque chose de plus fondamental que l'autonomie est en française. Vous voyez bien, l'autarcie grecque montre justement la séparation. Et l'autonomie de la substance n'est pas une autonomie absolue. C'est une autonomie selon la forme. Et l'autarcie du côté acte est une autonomie plénière. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a là quelque chose à préciser. Voulez-vous, c'est difficile la métaphysique. On doit tout le temps préciser. Tout le temps aller plus loin. C'est du reste très beau parce que ça montre qu'on n'est jamais arrivé au terme. On doit tout le temps aller plus loin. On ne doit jamais s'arrêter à ce qu'on a saisi, on doit préciser plus. Et c'est l'avantage d'un cours, c'est qu'on est plusieurs à penser. Et si on est plusieurs à penser, je ne dis pas qu'il faut additionner les pensées, mais de fait, il y a des points sur lesquels on voit une précision qui se fait plus et qui doit se faire plus. Parce que la métaphysique de la substance, la métaphysique de l'acte, sont toujours pour nous faire mieux saisir ce qu'est l'être. Ce qu'est le « ceci est », le « toon », l'ens, sous le point de vue de l'être. Puisque je n'en ai pas l'intuition, je la saisis à travers l'ousia, je la saisis à travers l'acte. Et cette double, ce double aspect me permet de mieux saisir ce que représente justement l'essai, l'acte d'être. Parce qu'au fond, en définitive, c'est ça, saisir l'essai, l'acte d'être, dans la lumière de la métaphysique de l'acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, nous allons attaquer rapidement ce que je vous disais tout à l'heure dans le livre sur l'être, donc le 7e paragraphe. Je vais quand même en dire un mot aujourd'hui et demain, ou très rapidement. Ce sont des questions difficiles aussi, très difficiles. Gilson dit « Saint Thomas ne parle jamais du principe de causalité, donc un vrai thomiste ne doit pas en parler ». À peu près ça, il dit ça à peu près. À peu près ces choses-là. Alors, il faut essayer de comprendre si on doit parler du principe de causalité ou pas parler du principe de causalité. Vous comprenez que là, c'est une question à la fois métaphysique et critique. Parce que je pourrais très bien dire principe de causalité, regarde critique. Je serais assez d'accord. Mais principe de causalité apporte peut-être aussi quelque chose de particulier à la métaphysique. Mais je suis d'accord que c'est une explicitation critique. Au fond, le philosophe, le métaphysicien, découvre la substance, découvre l'acte. Il essaie de saisir ce que c'est que la substance par rapport à ce qui est. Il saisit l'acte par rapport à ce qui est. Il ne le saisit pas au niveau principe de causalité, c'est bien évident. Alors, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre avec vous. C'est pas si commode. Parce que, on répète, hein, au plan philosophique et au plan métaphysique. Et plus c'est difficile, plus on répète. Parce que, ça va plus vite. Alors, je découvre l'être en acte. Vous allez voir le problème. L'être en acte. Je le découvre comme fin. Je le découvre donc comme principe et cause. Puisque la fin est principe et la fin est cause. Rien n'est au-delà de la fin. Or, c'est ça ce qu'on appelle principe. Un principe, c'est ce là au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc, c'est net que pour Aristote, ça je crois, alors que c'est très très net, l'être en acte est principe. Parce que l'être en acte est fin. Donc là, il faut être très, très catégorique. Exactement comme quand il saisit l'ousia, il saisit l'ousia comme arché, là il le dit. Hein. Donc, comme principe. L'ousia est principe et l'ousia est cause. Il le dit aussi. Bon, c'est pas parce qu'Aristote le dit que je le répète, mais c'est que je crois qu'il faut bien saisir. Parce que c'est intéressant, je fais ça allusion parce que Gilson fait allusion en disant le principe de causalité n'a rien à voir avec Saint-Thomas. Mais d'une certaine manière, il dit presque ça. Je grossis un tout petit peu, mais il le dit, principe de causalité, ne disons pas principe de causalité. Disons tout simplement fin. Puis, ici, principe. Alors, j'essaie de comprendre, parce que c'est ça qui est important à saisir ici, que quand je saisis l'être en acte, je saisis l'être en acte comme fin, telos, je saisis cette fin comme un principe dans l'ordre de l'être, et parce que c'est un principe dans l'ordre de l'être, c'est aussi cause. Vous voyez bien la différence entre le principe et la cause. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité n'est pas toujours premier dans l'ordre de l'être. Et donc, ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité est simplement principe, mais n'est pas cause. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est tout simplement de saisir quelque chose dans son intelligibilité. Alors, c'est premier dans l'ordre de l'intentionnalité. C'est premier dans cet ordre-là. Vous voyez, pour mieux comprendre, vous mettriez en parallèle l'action, puisque c'est comme ça qu'Aristote l'appelle, on aurait peut-être raison de l'appeler axiome, ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. C'est un axiome, c'est-à-dire une loi. C'est une loi, c'est un axiome. C'est un principe, oui, c'est un principe. Mais ce n'est pas une cause. Vous n'allez pas dire que le principe de non-contradiction est une cause. Non, ce n'est pas une cause. C'est un principe. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'ordre de l'intelligibilité. Et uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité. Je ne peux pas comprendre le principe de non-contradiction sans faire intervenir l'intelligence. Et c'est la loi de l'intelligence. C'est la loi de notre intelligence. Je crois que l'intelligence divine n'a pas beaucoup besoin du principe de non-contradiction. Tandis que nous, oui. Parce que ça fait partie, justement, de notre condition, notre manière particulière de connaître. Nous connaissons en affirmant et en niant. C'est très curieux. On connaît en affirmant et en niant. Et on ne peut pas connaître autrement qu'en affirmant et en niant. Et parce qu'on connaît toujours en affirmant et en niant, ce qui est une condition, ce qui relève de notre conditionnement humain. Nous affirmons et nous nions. Alors, il y en a qui affirment plus, il y en a qui nient plus. Je ne sais pas quels sont les plus intelligents. Mais c'est de fait comme ça. On affirme et on nie. Bon, alors, et on avance comme ça. Donc c'est important de voir le lien entre les deux. Et le principe de nos contradictions, cette espèce d'axiome, cet axiome merveilleux qui exprime le conditionnement de notre vie d'intelligence, montre comment affirmation et négation regardent la réalité. Se fond dans la réalité. Je ne peux pas nier n'importe comment, je ne peux pas affirmer n'importe comment. J'affirme et je nie toujours relativement à ce qui est devant moi. Ça, c'est un axiome. C'est pour bien vous faire comprendre. C'est un principe. Tandis qu'ici, je dis que l'être en acte, il est principe et cause. Et que l'ousia est principe et cause. Alors, est-ce que le principe de causalité, est-ce que ce n'est pas tout simplement montrer que la cause est principe et que ce principe est cause ? Très bien. Comme ça, je vous laisse sur une interrogation.